pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 11e dimanche. Voyant les foules, Jésus est ému aux entrailles à leur sujet, parce qu'elles sont fatiguées et abattues, comme des brebis sans pasteur. Il dit alors à ses disciples,
« La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il fasse sortir des ouvriers pour sa moisson. »
Jésus appelle à lui ses 12 disciples et il leur donne autorité sur les esprits mauvais pour les expulser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et de Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoie en mission. Il leur fait ses recommandations.
N'allez pas chez les païens. Et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le règne des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Bonjour à vous tous et bonjour Georges.
Bonjour.
Ces gens proches de Jésus, Georges, sont-ils des disciples ou des apôtres? Et s'ils sont des apôtres, pourquoi ne doivent-ils pas aller vers les païens?
Et c'est effectivement ce qu'ont toujours fait nos missionnaires, d'aller vers les peuples païens. D'ailleurs, on pourrait dire aussi que cette recommandation de Jésus est en contradiction avec le message final qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, « Allez donc faire des disciples parmi tous les peuples païens ». Mais avant de regarder cela, voyons où ce texte se situe dans le récit de Matthieu. Le verset 35 qui précède notre récit fait comme une sorte de résumé de l'activité de Jésus.
Jésus parcourt toutes les villes et villages, il enseigne dans leurs synagogues, il proclame l'évangile du règne et guérit toute maladie et toute infirmité.
On retrouve d'ailleurs exactement ce même résumé au chapitre 4, verset 23. Et cela termine le chapitre 4 qui est consacré à la première mission de Jésus en Galilée. Là, il est accompagné de ses premiers disciples, les deux couples de frères, André et Simon-Pierre, Jean et Jacques. Ce résumé, eh bien, il va être illustré par les chapitres 5 à 7, d'une part, qui eux vont dire l'essentiel de cet évangile que Jésus proclame. Et ensuite, par les chapitres 8 et 9, qui vont décrire les guérisons, un paralysé, une femme souffrant d'hémorragie, deux aveugles, un possédé muet. Voilà donc illustré ce résumé. Avec le chapitre 10, on pourrait dire que nous avons comme un deuxième cycle de mission, et cette fois, eh bien, ce n'est plus seulement Jésus avec les quatre frères, mais avec les 12, et ces 12 vont recevoir autorité pour poursuivre l'œuvre du Maître.
Voyant les foules, Jésus est ému aux entrailles à leur sujet, parce qu'elles sont fatiguées et abattues comme des brebis sans pasteur.
On traduit souvent « Jésus a pitié des foules ». C'est juste comme traduction, mais Le mot pitié a pris aujourd'hui une résonance péjorative. Personne ne veut être pris en pitié par quiconque. On se sent plutôt dévalorisé en tant que personne humaine quand quelqu'un a pitié de nous. Mais le mot juif, qu'on peut traduire par pitié, signifie d'abord être touché et ému dans toute sa sensibilité. Et c'est un sentiment qui est très souvent prêté à Dieu dans la Bible. Alors on le traduit de différentes manières, par miséricorde, tendresse. On pourrait en donner quelques exemples. D'abord, dans le prophète Isaïe, où Dieu parle à son peuple qui est souvent infidèle.
Un bref instant, je t'avais abandonné, mais avec de grandes tendresses, je vais te rassembler. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa miséricorde et sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas.
Et une autre citation de Jérémie, où on parle encore de la miséricorde et de la tendresse de Dieu pour son peuple, pour son fils.
Mon peuple est-il pour moi un fils chéri? En mon cœur, quel est moi pour lui? J'ai pour lui miséricorde et tendresse. Oui, une grande tendresse.
Eh bien, c'est son sentiment d'amour tendre et fort de Dieu pour son peuple que nous retrouvons dans le cœur de Jésus, et tout spécialement pour les exclus, les brebis perdues d'Israël. Jésus voit ces foules comme écorchées et terrassées. Alors pourquoi? Eh bien, bien sûr, le pays est sous l'occupation de Rome, dont le symbole d'ailleurs de Rome est celui d'une louve. Chacun sait que en Galilée, les brebis, les chèvres qui sont sans berger sont la proie des loups. De la même façon qu'Israël, qui n'a plus de roi, est victime de la louve romaine. Et cette occupation de la louve romaine est écrasante principalement pour les gens du peuple. En plus, bien des chefs qui sont juifs et des prêtres exploitent les petits et les pauvres par la dîme, par les offrandes du temple. Et surtout, ils l'écrasent sous le moralisme. Moralisme très, très oppressif avec 613 articles, plus toutes les traditions qu'on a ajoutées. Et bien plus, ces gens qui guident Israël, ou qui le guident mal, qui sont ces faux bergers, ces faux pasteurs, donnent aux fils et aux filles de Dieu une connaissance fausse de Dieu comme père. Ils ne le présentent pas comme père, mais comme un juge plus ou moins terrifiant. Ils culpabilisent les gens en leur imposant obligation sur obligation. Au lieu de prêcher un abandon, confiant, qui permet d'entrer en communion avec ce Père divin et de se laisser aimer par lui, lui dont l'amour est fort et tendre. Le prophète Ézéchiel, déjà, dénonçait cette inaction et cette mauvaise action des chefs.
La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise. Tu leur diras, malheur aux pasteurs d'Israël. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Mon troupeau erre partout, sur les montagnes et sur les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui les ferai reposer. Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître. Et l'on saura que c'est moi, leur Dieu, qui suis avec eux. »
Oui, parce qu'il est amour, Dieu ne peut pas être indifférent à la souffrance. Devant la souffrance, celui qui aime ne peut que vouloir la soulager. Et certes, il y a des actes qui créent le mal, mais ces actes sont mal parce qu'ils font souffrir. Ils font souffrir l'être humain, ils font souffrir aussi Dieu. Et Jésus, comme Dieu, souffre des malheurs de son peuple, et il va déployer toute son énergie à tenter de soulager ses malheurs. Par ses gestes de miséricordieuse bonté, Jésus va révéler Dieu. Il guérit les malades, il ne condamne pas la femme adultère, il pardonne aux paralysés, il redonne espoir à chacune et à chacun. Thank you.
La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il fasse sortir des ouvriers pour sa moisson.
Devant l'ampleur des souffrances à soulager, devant la profondeur de la détresse des foules, Jésus implore le Père de lui donner des compagnons de mission. Si on traduit d'ailleurs le texte à la lettre, il est dit qu'il jette dehors. On a traduit qu'il fasse sortir, mais littéralement c'est qu'il jette dehors des ouvriers pour sa moisson. Et André Chouraki commente ainsi, Dieu les jette dehors afin que, détachés de leurs biens, ils puissent accomplir leur mission. Eh bien, je pense qu'effectivement, cette traduction correspond bien aux exigences de Jésus. Va, vends tes biens, puis viens suis-moi, dira-t-il aux riches qui s'interrogent sur sa vocation à suivre le Christ. L'image de la moisson est une image traditionnelle dans la Bible. Elle évoque le grand jugement final de l'histoire où Dieu séparera les bons et les mauvais. Mais ce rassemblement des êtres humains dans l'amour est déjà commencé. Et c'est un rassemblement qui va durer tout le temps de l'histoire. Et Jésus veut impliquer ses disciples pour en faire des envoyés de Dieu, c'est-à-dire des rassembleurs d'humanité. Aux quatre premiers disciples, il avait dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et c'est la même image, le pêcheur est celui qui rassemble dans son filet les poissons pour les faire sortir des bas-fonds du lac. Et on sait que les bas-fonds symbolisent dans la Bible les courants d'idées mauvais, les courants d'idées démoniaques qui défigurent l'humanité, une humanité qu'au contraire Dieu veut belle, rassemblée dans l'unité et dans l'amour.
Jésus appelle à lui ses 12 disciples et il leur donne autorité. Voici les noms des 12 apôtres.
Eh bien, on voit que les disciples vont se transformer en apôtres. Alors que le mot disciple veut dire celui qui apprend, le mot apôtre veut dire celui qui est envoyé. Semble bien d'ailleurs que ce mot sera réservé plus tard dans les Actes au groupe témoin des 12. Mais Paul aussi se définira pourtant comme un apôtre, le plus petit d'entre eux, dira-t-il. Le chiffre 12, eh bien, il rappelle les 12 tribus qui ont fondé Israël, Israël comme peuple de Dieu. Et il signifie donc que la communauté de Jésus se veut rassembleuse de tous les enfants de Dieu. Cela semble en tout cas l'intention de Jésus, ouvrir cette assemblée aux humains de tous les peuples et pas seulement aux membres d'Israël. Cette nouvelle assemblée, dans les écrits bibliques, va reprendre le nom araméen qui était le nom de l'assemblée juive, la Keïla. Ce mot Keïla, en grec, va donner Ecclésia et on le francise en Église. Une église, c'est donc une assemblée de disciples, c'est-à-dire de gens qui se rassemblent pour apprendre la Torah, la règle de Dieu, pour non seulement l'apprendre, mais pour la prendre comme règle de vie. Mais le disciple de Jésus diffère des disciples des autres rabbis. Ce n'est pas lui qui a choisi son maître, c'est le maître qui l'a choisi. Et c'est pourquoi le maître peut en faire un émissaire, un chargé de mission.
C'est moi qui vous ai institué pour que vous alliez porter du fruit.
Voilà, comme le Père a envoyé Jésus, à son tour, Jésus envoie ses disciples, ses amis. Et ils devront, comme apôtres, poursuivre sa mission, c'est-à-dire faire connaître le vrai visage de Dieu au monde, l'image d'un Dieu qui est le bon pasteur.
Y a-t-il encore aujourd'hui des brebis qui soient lasses et prostrées?
Eh bien, pour illustrer cela, je me servirai d'un petit écrit de Jacques, qui est un chrétien bien ordinaire. Il écrit ceci. « Je suis de la génération d'un Dieu vengeur et comptable. Ses représentants m'ont prédisposé à mentir à ce Dieu manipulateur pour lui faire plaisir. On nous forçait tout jeune à avouer des fautes, à inventer des péchés qui n'en sont pas. » Et cela pour recevoir une absolution qui nous semblait pouvoir être retenue selon le caprice du prêtre. Ce même Dieu voleur viendra d'ailleurs nous chercher pour nous emmener pour quelques-uns dans son paradis, mais pour la majorité dans son enfer.
On me présente un Dieu tellement exigeant. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. On ne me propose pas un mode de vie, mais des obligations. On m'enseigne la crainte, la peur de Dieu. Ce Dieu aime quand les gens se flagellent, se mortifient en son nom. On dit que ces gens aiment bien Dieu et que Dieu les aime. C'est un Dieu sadique.
On renchérit en nous enseignant un Dieu sectaire. Hors de l'Église, pas de salut. Il ne faut pas non plus parler aux protestants. Les juifs, eux, ils sont tous méchants car ils ont crucifié Jésus. Et pour ce geste odieux, on se doit de les haïr.
Sur cette terre, rien n'arrive si ce n'est le désir de ce Dieu tout-puissant. Toute souffrance, toute misère, tout cataclysme sont provoqués par lui. Un malheur, un coup dur, un accident, et la première pensée qui vient à l'esprit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Pour satisfaire son besoin de louange, ce Dieu narcissique rappelle à lui de jeunes enfants qui se joindront à son armée d'anges pour le louer. Mon neveu, qui vit chez moi, va mourir à l'âge de 16 mois. J'aimais cet enfant. Comme j'ai détesté et maudit Dieu pour cela. Je ne peux admettre qu'un Dieu créateur de la vie en soit aussi le destructeur.
Eh bien, vous voyez comment ce chrétien est sans doute le témoin de son époque, une époque qui n'est d'ailleurs pas si loin et qui peut toujours revenir. Car l'image d'un Dieu juge est toujours présente au fond de notre être. Et pour ce Jacques, eh bien, il faudra qu'il fasse la rencontre d'autres disciples pour qu'il parvienne à la connaissance du Dieu de Jésus. Écoutons-le encore.
Ces gens ne m'ont pas imposé de Dieu, ne m'ont pas cloué avec leur vérité. Ils m'ont fait découvrir, expérimenter un Dieu plein de tendresse, un Dieu proche de ma souffrance, de ma fragilité. Un Dieu qui accueille, relève, aime, soutient, pardonne, humanise. Ce Dieu libérateur est respectueux de ses créatures. Il espère que chaque humain devienne vraiment humain et qu'il soit heureux. Les évangiles sont pleins de passages où Jésus relève, élève, remet l'homme debout. Ce Dieu vivant au cœur de ma vie, je veux le partager.
Eh bien, comme le Père a envoyé Jésus, le Fils, comme le Fils a envoyé les 12, ainsi Jacques est passé de disciple à apôtre. Il est lui aussi maintenant un envoyé. Il partagera la bonne nouvelle qu'il fait vivre, cette bonne nouvelle qui est que Dieu est amour et qu'il veut vivre l'amour avec nous.
N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
Oui, comment comprendre ces recommandations? En excluant la province de Samarie, qui était séparée des juifs orthodoxes de Judée, Jésus limite la mission de ses envoyés aux brebis perdues d'Israël. Mais, plus profondément, Jésus ne vient pas pour faire du recrutement. Il ne vient pas pour faire entrer les païens à tout prix dans le peuple de Dieu. Oh, non pas parce que le peuple de Dieu est réservé à une élite, mais parce que la mission du peuple de Dieu est d'abord de témoigner de l'amour de Dieu auprès de tous les humains de toute race et de tout pays. Faire partie du peuple de Dieu n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Et on témoigne de cet amour de Dieu en vivant l'amour fraternel.
C'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Il faut donc, d'abord, en premier lieu, réunir les membres du peuple de Dieu. Il faut leur faire vivre cet amour fraternel qui va porter témoignage de l'amour de Dieu Père. Et il va porter ce témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui le méconnaissent. C'est cela, pour reprendre une expression d'André Chouraki, être un peuple pacte, un peuple alliance. Que servirait en effet de convertir les païens au Dieu unique si c'était pour les faire entrer dans une communauté de gens qui sont divisés et sans espérance? Jésus observera d'ailleurs que des païens ont foi en sa parole, parfois davantage que les membres d'Israël.
En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors.
Oui, bientôt, bien beaucoup viendront du levant et du couchant, bien c'est tous ceux qui vont venir des autres peuples. Mais reprenons, pour actualiser cela encore, le récit de Jacques. Il écrit « Seul, je ne peux rien, mais avec l'autre, je peux déraciner ce Dieu contraignant et pervers, et cela par le partage du pain, le partage de la parole et de la prière. Ce que j'essaie de vivre avec ma communauté, comme le disent les actes, être fidèle à la parole dans le partage et l'amitié. Oui, ma relation à l'autre a changé. De l'égoïsme qui m'habitait, je veux maintenant aider celui qui est en quête de Dieu. Avec l'autre, je veux faire un bout de chemin, car mutuellement, on s'apprend la vie. »
L'important, mais combien difficile, est d'accueillir l'autre tel qu'il est, là où il est rendu, sans vouloir le changer. Je veux qu'ensemble on marche vers une vérité plus grande. Il y a d'autres couleurs, d'autres facettes de Dieu à découvrir. Si aujourd'hui je peux faire Église, c'est que des gens ont transmis un Dieu d'amour rempli de tendresse et de miséricorde. L'Église, c'est nous. Est-ce que je reprends le flambeau? Si oui, au nom de quel Dieu? Sur votre route, proclamez que le règne des cieux est proche. Quelle est donc cette bonne nouvelle du règne?
Eh bien, tout au long de son histoire, le peuple d'Israël espère l'établissement du règne de Dieu sur son sol. Un règne où Israël sera purifié de toutes les forces qui sont contraires à la Torah, à la règle de vie que Dieu a donnée. Et bien sûr, tant que la Rome païenne prive Israël de sa liberté, le règne de Dieu ne peut pas s'établir. Oh, Jésus, bien sûr, n'approuve pas la domination romaine, mais il voit ailleurs la source de la servitude. Pour Jésus, en chaque être humain se trouvent des forces mauvaises qui amènent l'égoïsme, la non-solidarité, la domination du plus fort. Son message s'adresse d'abord à ceux que les plus forts ont marginalisés, les petits qui n'ont pas l'instruction, les marginaux à cause de leur maladie, ceux qui ont dû vendre leurs terres pour payer leurs dettes. C'est eux qu'il invite à faire régner Dieu, eux qui n'ont rien à perdre, qui ne sont pas liés par les richesses, qui ne sont pas prisonniers de leur image sociale.
Ils sont sur le droit chemin du bonheur, les pauvres d'instruction, car le règne de Dieu est le leur. Ils sont sur le droit chemin du bonheur, les doux et les humbles. La terre sera leur héritage. Les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu.
Oui, Jésus ne s'appuie pas sur les scribes savants, sur les prêtres, sur les gens de haute naissance. Il dira même qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans ce règne de Dieu. La Keïla de Jésus, son Église, sera faite des humbles, de ceux pour qui l'amour et la bonté sont des absolus qui doivent toujours être prioritaires, avant les idéologies, avant les recherches de sécurité, avant même les autres vertus qui définissent la bonne conduite des honnêtes gens.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Les scribes et les rabbis, en effet, étaient tenus de donner gratuitement leur enseignement. Et Jésus rappelle à ses disciples qu'il leur a donné gratuitement son évangile. L'apôtre Paul, comme beaucoup de rabbis, travaillera pour assurer sa vie, lui aura appris le métier de tisserand. Il revendiquera d'ailleurs fortement cette liberté que lui donne le fait d'annoncer gratuitement l'évangile.
Rappelez-vous, frères, nos labeurs, nos fatigues. C'est en travaillant, nous, nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de vous, que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu.
Ainsi, le prédicateur n'a pas crainte de livrer son message. On sait qu'il ne pourra jamais le falsifier afin de plaire ou afin de recevoir de l'argent. On sait que ce qu'il prêche, le missionnaire y croit, car prêcher n'est pas un job qui lui donne un salaire.
3 années durant, nuit et jour, je n'ai cessé d'exhorter avec larmes chacun. Je n'ai convoité ni l'argent ni les vêtements de qui que ce soit. À mes besoins et à ceux de mes compagnons, mes mains ont pourvu. Je vous ai montré que c'est en travaillant qu'il faut secourir les faibles. Nous souvenons des paroles du Seigneur Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».
Oui, eh bien il y a une quarantaine d'années, un certain nombre de prêtres ont retrouvé ce conseil. Et Jacques Leuve, un des premiers prêtres ouvriers français, expliquait ainsi l'opportunité du travail des missionnaires.
Il est normal que ceux qui reçoivent des missionnaires, les biens spirituels, les assistent en retour de leurs biens temporels. Jésus dira « L'ouvrier a droit à sa nourriture ». Mais il est normal aussi, et c'est la conduite de saint Paul, que les missionnaires travaillent de leurs mains afin de donner gratuitement l'évangile qu'ils ont reçu gratuitement et afin qu'aucun soupçon d'intérêt matériel ne puisse ternir la prédication de la bonne nouvelle aux yeux des incroyants.
Le disciple missionnaire a été choisi gratuitement et non pas à cause de ses mérites ou par privilège. Le disciple missionnaire a été aimé gratuitement malgré ses fautes et ses faiblesses. Alors, il ne peut être que le témoin de l'amour gratuit de Dieu. C'est ce que Paul écrivait dans sa 2e lettre aux Corinthiens.
Le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plus tôt dans ma faiblesse, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture. So